France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le best-of de Zoom Zoom Zen, le meilleur de nous-mêmes. En somme, une heure pour mieux comprendre notre époque à travers ces mots, M-O-T-S, mais aussi M-A-U-X si vous le voulez, on n'est pas chiche ici. À mes côtés, deux jeunes pousses qui font la fierté du service public, Manon Mariani aux manettes de la veille sanitaire, et Quentin, lui, micro-trotteur complètement à la rue. Zoom Zoom Zen forme un best-of, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Marwan Mohamed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Marwan, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vos travaux portent principalement sur les jeunesses populaires et les différentes sortes de délinquance. Et vous êtes l'auteur de « Y'a embrouille, sociologie des rivalités de quartier » publié l'an dernier chez Stock. Alors Marwan Mohamed, vous allez nous décrypter la mécanique de ces bandes rivales et pourquoi c'est dur d'en sortir. Mais d'abord, Marwan Mohamed, vous avez grandi à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Banlieue chaude, tiède, fraîche ?
Banlieue chaleureuse.
Chaleureuse.
Ouais. Banlieue chaleureuse, banlieue avec ses problématiques, mais banlieue chaleureuse avant tout. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu en arrivant de Paris. Moi, je suis arrivé à 13 ans.
D'accord.
De Paris. J'habitais le centre de Paris, plutôt le centre bourgeois. Ma mère était concierge. Donc, pour moi, ça a été un vrai voyage social en tant que tel, parce que c'était pas du tout la même réalité. Mais dans le centre de Paris, quelque chose qui me fascinait déjà, c'était la question des bandes, des grandes bandes parisiennes, de qui tient le Forum des Halles, qui tient la Gare du Nord. Et donc, c'est pas quelque chose qui était absent de mon quotidien.
C'est quelque chose que vous avez vécu, voilà. Ça vous a donné envie de l'étudier.
Oui, oui, oui. Souvent, on va étudier on va essayer de répondre à des questions qu'on se posait plutôt dans sa vie. Mais oui, oui. Je veux dire, petit, moi, 9-10 ans, j'allais au Halles, regardais les bandes. J'étais un peu fasciné, un peu apeuré. Je regardais un petit peu ce qui se passait. Je suivais un peu toute cette actualité. Et en arrivant à Villiers-sur-Marne, ben, en fait, une des premières choses qu'on m'a dit, j'étais au lycée à Fontenay-sous-Bois. On m'a dit, ça va Fontenay, mais ne va surtout pas au lycée à Champigny parce que tu pourras pas te déplacer. Pourquoi ? À cause des rivalités entre Villiers-sur-Marne et Champigny. Wow. Donc la première des choses dont on nous parle, c'est de nous donner un peu la cartographie des rivalités entre quartiers.
En bout de table, la dernière bande à laquelle il a appartenu, les Hells Angels de Ponto Combo, l'a radié le jour où il a acheté ce scooter électrique chinois qui ressemblait à un Ferrari repassé.
Vendu, revendu.
Il a essayé de leur expliquer que c'était quand même plus écologique qu'une Harley et lui ont cassé la gueule. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Qu'il était moche ce scooter.
Il était horrible.
C'est de l'histoire. Ce truc a été revendu.
Enfin, le nouveau est énorme quand même.
Cyril, vous êtes penché évidemment sur notre notion du jour. Dites-nous, les bandes rivales, d'où ça sort ?
La cultissime comédie musicale West Side Story. Alors, je ne vous ai pas fait l'injure de vous passer l'inutile remake de Steven Spielberg, mais bien la version originale de 1961, qui elle-même est l'adaptation d'une pièce jouée à Broadway depuis 1957. Le film compte 10 Oscars à son palmarès, et c'est un classique du cinéma quand on veut parler justement de bandes rivales. D'un côté les Jets, de l'autre les Sharks, les Blancs contre les Latinos, et au milieu, bien sûr, l'histoire d'amour entre Tony et Maria. West Side Story, c'est une musique de Leonard Bernstein, une partition qui va marquer la carrière du compositeur au point qu'il finisse par en avoir marre, qu'on lui rappelle systématiquement. En France, un an plus tard, c'est moins dansant, moins de love aussi, mais aussi une certaine vision des bandes rivales.
Mais que va-t-on lui couper ?
Les oreilles !
La langue !
La guerre des boutons de Yves Robert, lui, il a eu le droit à deux remakes, l'enfer des remakes. Dans la guerre des boutons, ce sont des gamins qui s'affrontent et coupent les boutons de leurs prisonniers. Ce ne sont que deux exemples, bien sûr, mais les bagarres entre bandes, ce n'est pas ce qui manque au cinéma. Une manière de vous dire que la baston entre bandes, ça existe depuis toujours, ou presque, parce qu'on n'a pas les mêmes origines, parce qu'on ne vient pas du même quartier, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Parfois, on ne sait même plus pourquoi on se bagarre entre bandes. La préfecture de Paris a mis sur pied la cellule bande pour surveiller les bandes, justement. Elle remonte à 2010 et l'an dernier, il y en avait 45 sous surveillance. Alors, est-ce que ces bandes sont vraiment dangereuses ? Est-ce qu'une cellule bande, ça sert à R ou c'est utile ? Comment réconcilier les bandes ? Est-ce que les embrouilles sont plus nombreuses, plus violentes qu'avant ? Est-ce qu'on joue parfois aussi à se faire peur ? Comment apaiser les tensions ? C'est ce qu'on va voir durant une heure pour que vous riez quant à
ça. Ça sert à R.
Drame du quinca qui tente de faire jeune.
Ouais,
merci Cyril Lacarrière. Marwan Mohamed, on va crever l'abcès d'emblée dans cette émission, parce que c'est vrai que dans l'actu, on parle beaucoup de bandes rivales. Certaines chaînes ont l'air de découvrir que ça existe. C'est un phénomène qui est vieux comme le monde. Est-ce qu'il y a une forme de radicalisation de ces bandes aujourd'hui dans la violence ou pas ?
Une radicalisation de notre intolérance à leur violence. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très marqué. On ne supporte plus. C'est des comportements qui sont montés en épingle et qu'une partie de la population croissante ne veut plus expérimenter, voisiner. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont beaucoup plus violentes aujourd'hui. Pour dire que c'est plus violent, alors d'abord la notion de plus violent, les jeunes plus jeunes et plus violents, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est une dénonciation qu'on retrouve depuis la moitié du 19e siècle, chez les décideurs publics, chez les pouvoirs publics. Donc si on suivait cette logique-là depuis la moitié du 19e siècle, si les choses étaient de plus en plus violentes, aujourd'hui les affrontements entre gangs seraient des affrontements entre crèches. Suivant cette logique-là, non mais vraiment.
Oui.
Et les choses se sont répétées tout au long du XXe siècle. Donc il y a eu des variations, il y a eu des moments où ça s'est calmé, des moments où c'est reparti. En termes de violence, qui peut paraître nouveau, moi c'est mon hypothèse, c'est plutôt les violences liées aux économies criminelles. C'est-à-dire que l'arrivée des drogues, l'explosion du marché de la consommation, à partir des années 90, les choses se sont professionnalisées. Et là, on a vu des modifications au niveau des règlements de compte liés aux économies criminelles, mais pas tant à ces rivalités de quartier qui sont un phénomène cyclique. Ça monte, ça vient et ça repart. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a des alertes dans toutes les rédactions. Et dès qu'il y a un adolescent qui est tué par un autre adolescent, il y a une montée en épingle. C'est quelque chose qui est politisé au niveau national, donc on en parle énormément. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on se castagne dans les quartiers ? Est-ce que vraiment il y a plus de violence entre bandes aujourd'hui qu'hier ? Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir scolariser les ados de 8h à 18h ? Pas sûr, mais on continue quand même d'en parler et de comprendre les bandes rivales avec Marwan Mohamed, juste après Selassou, Ragamuffin sur Inter. Yeah. Oh. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. Sending all my love, it's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he pours. Huh. I rock him up as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. The dear rock him up as a one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do? I don't know. Dear rock him up, it's surely not fall it down. Cause he is the wisdom.
Zoom Zen sur France Inter.
Le sociologue Marwan Mohamed est notre invité cet après-midi pour zoomer sur le phénomène antédiluvien des bandes rivales qu'on nous présente dans certains médias comme une nouveauté inquiétante, signe de l'apocalypse à venir. On a appelé cette émission Bandes rivales. Dans le titre de votre livre, Marwan, vous parlez d'embrouille. Dans les médias, côté gouvernement, on entend plutôt le terme de rixe. Quel terme vous semble le plus adéquat pour parler des violences entre groupes rivaux ?
Bah, une rixe, c'est une querelle entre différentes personnes dans l'espace public. Une querelle violente. Et la notion de rixe, elle est intéressante parce que c'est une notion qui est une notion latine. Pourquoi ? Mais parce que la violence est un mode de régulation des conflits, des contentieux dans l'espace public. Mmh. Et le premier sociologue des rixes, j'ai envie de dire, c'est Sénèque. Il a distingué les formes de rixes en fonction des contextes à l'échelle à l'époque, au niveau de Rome, etc. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'il y avait une notion pour parler de celui qui était tout le temps dans les rixes, c'était le rixator. Si on devait traduire la notion de rixator, ouais, qui a disparu aujourd'hui, ce serait le mec à embrouille. pour aller très très vite. Ouais. Donc le mec à bagarre, le chercheur, celui qui cherche, le fort en gueule, etc. Donc là, mais la rixe aujourd'hui, telle qu'elle est utilisée, c'est une notion qui est polysémique, c'est une notion du fait divers. Et en fait, on utilise le mot rixe pour parler d'une bagarre entre supporters à la sortie d'un stade, d'une bagarre après à une fête foraine, à un mariage. Et en fait, on utilise le mot rixe pour parler de violences collectives qui ont des finalités et des ressorts très différents. La notion d'embrouille, elle m'intéresse davantage. Pourquoi ? Parce qu'on regarde la conflictualité, on regarde son histoire, on regarde la profondeur. Et en fait, je me suis rendu compte que des jeunes s'affirment par l'embrouille. D'où cette phrase dans mon livre, je m'embrouille donc je suis, c'est-à-dire je suis quelqu'un, je deviens quelqu'un à travers l'embrouille, et je m'embrouille donc je suis au verbe suivre, c'est-à-dire il y a aussi cette notion de mimétisme, de solidarité qui est en jeu.
Évidemment, parce que je vous écoute et je me dis, on est choqués, nous, petits bourgeois, on peut le dire, qui vivons des vies tranquilles par la violence parfois des jeunes en banlieue, entre autres, parce que ça arrive ailleurs aussi, mais il y a cette notion de s'affirmer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose pour exister, donc il faut bien s'affirmer dans quelque chose, et malheureusement, ce qui est à portée de main, c'est souvent la violence, en tout cas l'embrouille.
Il y a des régularités. Moi, la question que je me suis posée, c'est, en fait, qui participe à ces embrouilles, qui on retrouve dans les bagarres, est-ce qu'ils ressemblent à tout le monde, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui les distingue ? Il y a des choses qui les distinguent, c'est ça les régularités sociologiques. La première des choses qui les distinguent, c'est qu'ils vivent très souvent dans les quartiers populaires où il y a une tradition de l'embrouille. Donc ils en héritent. Avant même de naître, il y a des embrouilles.
Il faut faire comme les grands, et puis venger d'autres embrouilles qui ont précédé.
Ils sont socialisés à l'embrouille, au virilisme, à ces formes de masculinité, etc. Donc ils sont socialisés à ça. Deuxième critère extrêmement important, c'est qu'ils sont moins bons à l'école que la moyenne. Ceux qui participent à ces rivalités. Moins bons à l'école, en sachant que la scolarité, la réussite scolaire, c'est quand même le mode d'affirmation numéro un pour devenir quelqu'un, accéder à la reconnaissance des adultes, etc. Troisième critère, il y a cette idée de la construction des virilités. Ils adhèrent à une forme de virilisme qui est hégémonique dans la rue. Il n'est pas partout dans le quartier, il n'est pas forcément dans la famille ou auprès de petit ami ou la petite amie du conjoint, mais dans la rue, c'est une forme de loyauté à ces normes-là de virilisme. Donc ce qui se passe, c'est un mécanisme de compensation. Comment devenir quelqu'un quand on a raté l'école et qu'on n'est pas doué en sport et dans la culture ? Qu'est-ce qui est disponible comme mode de comportement pour accéder à une forme de réputation, de prestige, de reconnaissance, etc. C'est là que la rue et les bandes offrent des solutions qui sont attirantes.
Mais est-ce qu'on peut quitter une bande ou, comme vous dites, c'est une forme d'hérédité, en fait ?
Alors, bien sûr que la plupart sortent des bandes. J'ai aussi travaillé là-dessus, j'en ai écrit un livre qui s'appelle Les sorties de délinquance. Oui, la plupart des jeunes sortent des bandes. Et en fait, tous les jeunes que j'ai interrogés, moi, dans les années 90, surtout les années 2000, fin des 90, les années 2000 et un peu après, la plupart sont rangés aujourd'hui. C'est-à-dire, les incasables, ceux qui insupportaient tout le monde, sont quasiment tous rangés aujourd'hui.
Donc, c'est générationnel, d'une certaine façon.
Oui, il y a quelque chose de la reproduction de ces modes de comportement-là, qu'on n'arrive pas à bloquer, qu'on n'arrive pas à stopper, mais c'est juste une étape de leur vie. C'est une séquence de leur vie.
Vous parlez de virilité, les bandes, elles sont que masculines ? Les embrouilles, c'est que masculin ?
Alors, je parle de virilité, c'est ça qui est important. C'est que les bandes de jeunes ne sont pas que masculines, mais les normes de virilité, notamment le virilisme, est hégémonique dans les bandes, même quand il est approprié par des jeunes filles. C'est-à-dire qu'on associe et on réduit la virilité à la masculinité. Ouais. Mais en fait, il y a des filles viriles. Il y a des féminités populaires qui font la promotion de la virilité. Il y a même des gens qui sont pas de milieu populaire qui sont virils. Des femmes, une femme qui fait de la boxe a une part de virilité et s'engage dans une activité virile. Donc, faut distinguer les deux. À mon avis, c'est extrêmement important. Et des jeunes filles adhèrent à ces normes virilistes, les soutiennent, les promeuvent et parfois participent elles-mêmes à la vie des bandes.
On a dit que parfois c'est un phénomène qui touchait les très jeunes. À partir de quel âge, en moyenne, on entre dans une bande en France aujourd'hui en 2024?
Alors, entrer dans une bande, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très institutionnalisé. Oui, non, mais en fait, c'est des groupes de copains, c'est très poreux, les frontières. Il n'y a pas cette notion de membre comme on peut voir aux États-Unis, aux États-Unis où on est gang member, on demande un gang ou affilié à un gang, etc. C'est pas du tout le cas ici. C'est des groupes de copains avant tout. Ils se pensent pas comme une bande, une institution. Mais en gros, les premières bêtises en bande, c'est 13, des fois un peu plus tôt, mais en moyenne, c'est 13, 14 ans. Et puis ça monte en puissance jusqu'à 18 ans, ça stagne et ça décroît. Et c'est des choses qu'on revoit un petit peu partout. Et par rapport à la fin des années 50, ce qui est est frappant, c'est pas tant le rajeunissement, c'est le vieillissement.
Oui, ça dure plus longtemps.
Exactement, parce qu'on devient adulte plus tard.
Tenez Quentin, avant qu'on passe à votre micro-trottoir, j'aimerais partager avec vous un joli message que j'ai reçu hier. Vous savez, ce week-end, j'étais à Nice pour encourager mon épouse qui courait le 10 km. J'étais donc posté au bord de la route avec ma fille de 2 ans sur les épaules, d'où cet adorable message d'un de nos auditeurs nommé Laurent Cantazzaro, qui me dit « Oh, je vous ai vu hier en courant, d'ailleurs, j'ai pas bien reconnu, c'était votre fils ou Quentin sur vos épaules ?» Alors, cher Laurent, c'était ma fille. Quentin est encore évidemment trop jeune pour monter sur mes épaules, il aurait le vertige.
Surtout, j'irai jamais au week-end avec vous.
Comment ça ?
Faudrait que je sois invité.
Oh, ben, je vous invite souvent, vous venez jamais. Alors Quentin, vous êtes allé aujourd'hui, évidemment, Porte de la Chapelle pour ce micro-trottoir.
Je suis dans le métro, sur la ligne 12, et je m'arrête à Porte de la Chapelle, quartier en pleine évolution grâce aux travaux des JO et à l'arrivée d'un stade à l'architecture moderne. Alors qu'elle marche sur la piste cyclable, je rencontre Clara, 23 ans, licence pro, management et gestion des entreprises. Elle sort une oreille de son casque connecté.
Les bandes rivales, dans les quartiers ? On va dire c'est un peu plus territorial, on va dire. En gros, tu es dans le quartier, tu vas dans un autre, tu dépasses un autre, c'est pas bien. Ou en gros, des fois, c'est juste un regard. Tu croises quelqu'un, tu le regardes mal, hop, ça...
On parle de la tension qui monte, l'escalade, les drames et le fait que ça concerne des très jeunes.
Après, pour moi, c'est un engrenage. C'est une personne, elle vient dès que t'es en groupe, tu te sens en puissance, tu te sens en force. Alors qu'en vrai, je pense pas que si t'es tout seul dans la rue, t'as envie de poignarder un autre jeune qui vient dans le quartier. Moi, je pense que c'est un effet de groupe.
L'effet bande, l'effet groupe et un geste irréversible. J'arrête ces deux frères de 12 et 10 ans, survêt complet et ballon de foot orange dans les pieds.
Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi vos prénoms ?
Ryan.
Wassim.
Comment ça va ?
Ça va bien. On est parti au stade, on est parti s'entraîner tout seul. Et après, on a vu des personnes, on a joué avec eux.
J'ai joué contre des mecs un peu plus grands que moi.
Ah ouais. C'est quoi le score alors final ?
Ils ont gagné 3-2.
Ils me regardent et je leur demande de lire...
Les bandes rivales. Porte de la Chapelle, Barbès. Il y a Saint-Denis et Porte de la Chapelle.
Des fois, ça dérape un peu, ça dégénère.
Ouais,
ça
dégénère beaucoup. Là, dans notre quartier, il y a quelqu'un qui est mort, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ryan et Wassim mentionnent le drame qui s'est déroulé le 12 mars dernier à quelques centaines de mètres de l'endroit où l'on se trouve, rue Évangile, dans le 18e arrondissement. Un jeune homme de 18 ans a été tué de plusieurs coups de couteau lors d'une rixe. On poursuit notre échange. Ryan me raconte une autre rixe à laquelle il a insisté.
L'histoire, c'était qu'il y avait une bande, ça a dégénéré. Et il y a quelqu'un, il a sorti un pistolet parce que l'autre, il a ramené son gang, il a tiré et après il est mort.
T'as vu quelqu'un mourir sous tes yeux, toi ?
Ouais, et on n'était pas tout seul. Genre, je rentrais du collège avec plusieurs amis. Quand il a tiré, je suis parti direct. Là, je suis pas resté pour voir le sang, tout ça.
T'étais choqué ?
Ouais, mais après, genre, c'est parti, hein. C'est comme ça maintenant, ça veut montrer qui est le plus fort.
Vous voudriez faire partie d'une bande ?
Non, je vais me faire tuer par ma mère. Hein.
Moi je préfère me concentrer sur le foot. Ouais. Comme ça un jour, Inch'Allah, je vais devenir joueur pro.
Est-ce qu'on peut déjà s'habituer à la mort quand on a que 10 ou 12 ans ? Ces deux frères souhaitent l'éviter, ils se concentrent sur le sport, le foot par exemple. Dominique a 58 ans, elle habite le quartier. Dans son immeuble, ça va, mais dans l'immeuble d'en face, c'est plus délicat, nous parlons des bandes rivales.
Dans le quartier, ça a toujours existé.
Bah, disons que maintenant, c'est ce qui est dramatique, c'est que ça finit par un coup de couteau. Moi, je pense que c'est quand même un problème de société. On a été trop laxistes pour plein de choses. Les profs ont peur, les enseignants la trouille, donc il n'y a plus d'autorité, ils se croient tout permis, mais partout. Hein. Les parents démissionnent, c'est vraiment... Je pense qu'ils ont un sentiment d'impunité, et donc...
Ma dernière rencontre débarque avec ce tissu coloré qui enveloppe sa tête, ses grands yeux derrière ses lunettes qui se méfient un peu de mon micro. Elle a des écouteurs et elle est déjà en ligne au téléphone. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Vous êtes avec qui au téléphone ?
Attends, vous me filmez là ?
Non, c'est que du son.
D'accord, ok.
C'est qui au téléphone ?
C'est ma fille.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je travaille à l'école.
Je lui demande de me lire et de me dire surtout à quoi lui fait penser ce que je lui montre.
Oh, les bandes rivales ? Au voyou, là. Les jeunes qui s'agressent partout, là, dans les quartiers. Moi, quand je les vois arriver, je me sauve. Hein. Surtout quand ils sont habillés en noir, avec leurs battes, là. Oh là 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 là. Là, il n'y a pas longtemps, ils ont... Dans la rue, on vous l'a dit.
Il y a eu un drame.
Oui, il y a eu un drame. J'en parle et j'ai les larmes aux yeux, là. Parce que ma fille a à peu près leur âge et voilà, ça me fait mal. Moi, quand mes filles ne sont pas rentrées à 20h, je hurle. Vous êtes où ? Je suis stressée, je ne dors pas.
Et je la sens émue et touchée. Alors je lui demande comment l'hyperviolence vient se nicher dans le quotidien de cette génération. Sa fille est toujours en ligne avec elle.
Je ne sais pas, c'est les TikTok, c'est Internet, c'est la génération Snap. Et leur truc là, Hugo, c'est quoi ? Dis-moi, dépêche-toi. Yubo, voilà, Yubo. Elle dit, j'ai mal prononcé. Voilà, mais c'est sur Yubo, là, vous discutez, après ça devient des problèmes.
Yubo, Y-U-B-O, un réseau social destiné à des rencontres amicales pour les adolescents de 13 à 17 ans, mi-Tinder, mi-Snapchat. Le but de Yubo, c'est de se faire des groupes d'amis et peut-être des bandes. Avant de la laisser partir, elle laisse un message à ses jeunes.
La vie est courte. Ouais, c'est une perte de temps. Stop, faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent.
Bonne journée, madame.
Merci.
Merci d'avoir pris le temps.
Donc, je vais passer sur quoi, vous m'avez dit
France Inter. L'émission, elle s'appelle Zoom Zoom Zen.
Et ça passe à quelle heure, ça?
Eh bien, ça passe tous les jours, entre 16h et 17h. On aborde dans la rue tous les sujets qui parfois laissent des traces, qui parfois font du mal et même des victimes. C'est le cas dans cette rue, dans ce quartier, des bandes rivales.
Pourquoi entend-on parler tout le temps en ce moment dans les médias des bandes rivales? On zoome sur ce phénomène avec vous, Marwan Mohamed. Alors, on entend évidemment ce que vous nous dites, que globalement, si on regarde les statistiques, la violence, elle a plutôt tendance à baisser, que c'est peut-être notre intolérance à la violence qui fait qu'on en parle plus. Mais il reste quand même des problèmes. On l'a vu, cette hyper-violence qui se niche au sein de nos villes, de nos banlieues. On a entendu quelqu'un qui parlait de sentiment d'impunité des jeunes. Est-ce qu'il y a un plus grand sentiment d'impunité des jeunes aujourd'hui que par le passé où on aurait été plus autoritaire, par exemple?
Alors, déjà, on est de plus en plus autoritaire. C'est-à-dire qu'on est sur plusieurs décennies de votes, de lois, de durcissement des lois, de renforcement de la répression, d'augmentation de la population carcérale, d'allongement des peines, d'accélération du traitement pénal. On reste sur des années et des années de durcissement. Et en fait, ce durcissement nous avait été présenté comme la solution, la réponse à la délinquance et à la violence des mineurs. Et
ça,
on est encore
pas,
aujourd'hui en train de parler. En fait... c'est des réponses qui ne fonctionnent pas parce que c'est pas des réponses qui attaquent le mal à la racine. Comme j'ai dit tout à l'heure, si par exemple une politique sociale, une politique de sécurité aussi visait à réduire le vivier de jeunes qui sont en échec scolaire très précoce, et quand je vous dis très précoce, c'est que plus de la moitié de ceux que j'ai interrogés sont en difficulté dès le début du CP. Je parle même pas de décrocheurs, je parle de non-accrocheurs. C'est pas du tout la même perspective. Si on arrive à réduire ce nombre-là, j'ai parlé à des professionnels de l'éducation nationale, c'est les chiffres qui ne sont pas publiés, mais j'ai demandé, vous faites des tests nationaux au CP, dans ces quartiers politiques de la ville où j'ai été, pas tous, mais ceux où j'ai été, c'est combien d'enfants qui sont en difficulté déjà, quand vous regardez les résultats au CP? 50% minimum.
Ah, c'est fou.
C'est ça le réel. Et c'est dans ce vivier-là. C'est dans ce vivier-là qu'on va retrouver une partie de la population suivie par la justice des mineurs. On a une enquête de la justice des mineurs faite dans les Bouches-du-Rhône par Daphné Bibard qui montre qu'il y a plus des deux tiers de redoublants. Et parmi ces deux tiers de redoublants, la majorité d'entre eux ont redoublé au CP. C'est-à-dire que les difficultés rencontrées par ces jeunes-là sont précoces. Et je me dis qu'une bonne politique de sécurité, ce serait de réduire le vivier.
Oui, le problème à la racine.
Exactement. Exactement. Là, on n'est pas dans une stratégie qui permet de réduire drastiquement, on sanctionne, et tout systématiquement on sanctionne, mais on ne réduit pas drastiquement le phénomène.
Ce qui me marque, moi, c'est les jeunes que j'ai rencontrés, et Ryan, 12 ans, qui a déjà vu quelqu'un mourir devant lui. Est-ce que la mort est devenue quelque chose de banal?
Non. Non, non, fort heureusement que la mort n'est pas quelque chose de banal. Le taux d'homicide et les violences les plus graves, aujourd'hui, il y a 750 condamnations par an en moyenne, et entre 7 et 9% de mineurs qui sont condamnés. Mais il y a certains quartiers où il y a une forme de normalisation de la violence la plus grave. Je ne pense pas trop au quartier de Paris, où ça reste encore exceptionnel. On a parlé du 18e, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé encore dans le 18e. Pour le coup, c'est un sujet que je suis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais à Marseille, vous avez des quartiers de Marseille où il y a des coups de feu réguliers. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Et donc ça traumatise toute une population. C'est-à-dire les parents qui ne laissent plus leurs enfants sortir, jouer à l'extérieur. Donc les enfants restent beaucoup plus à l'intérieur, font moins de sport, sont plus sur les écrans, etc. C'est une population qui est traumatisée. Et ce que disent ces mômes, c'est quand même assez hallucinant. La phrase qui m'a frappé, c'est oui, ça devient comme ça, cette espèce de normalisation. Il ne faut absolument pas normaliser. Il ne faut pas laisser les choses se normaliser au point de se dire que c'est un langage acceptable.
Zoom Zoom Zen, le best-of se poursuit sur Inter. Dans un instant, on s'intéresse au plein emploi. Pourquoi est-ce que c'est devenu un objectif politique? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut atteindre? Et est-ce qu'on est vraiment tous d'accord sur ce qu'est, déjà, le plein emploi? On décrypte, comme chaque jour, l'air du temps dans Zoom Zoom Zen, le temps d'une pause musicale. The Kills, 103 sur Inter.
Catch me. cooking in the kitchen, looking in to the fire. Love a brother, bake a burning at the stake, but stick with me under the last palm tree. Sip a little water from the dirty fountain, meant to be the sum of it all. Oh, 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 keep me on the tip of your tongue.
Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Christine Herrel. Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Christine, vous êtes économiste, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire Économie du Travail et de l'Emploi. Vous avez publié en 2020 Les Politiques de l'Emploi aux éditions des Presses Universitaires de France et vous avez participé aussi à l'ouvrage collectif Que sait-on du travail, publié en 2023 chez Sciences Po. Et comme justement vous en savez beaucoup sur le travail, vous allez nous décrypter cette notion de plein emploi. Mais on va commencer par une question assez simple finalement. Christine Herrel, à vos côtés dans le studio, il y a 4 CDDU, enfin même plutôt 3 CDDU et une pigiste en l'occurrence. Et donc 4 emplois qui peuvent être qualifiés de précaires. Est-ce que c'est pas un peu facile d'atteindre, de dire qu'on va atteindre le plein emploi si on a beaucoup d'emplois précaires ?
Si, évidemment, c'est plus facile avec des emplois précaires ou avec des emplois à temps partiel. Donc on peut avoir un mauvais plein emploi, on peut avoir un plein emploi avec une mauvaise qualité de l'emploi.
Mais ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Enfin, ça sera l'objet de l'émission, mais...
Voilà, on n'en parle pas assez, il faut en parler plus, effectivement, de ces enjeux de qualité.
Face à vous, Christine, il conserve encore dans son grenier des reliques du plein emploi. Notamment ce t-shirt « Les jeunes avec Pompidou », « Pom Pom Pidou », dont il avait si souvent hurlé le slogan quand il militait pour la construction d'une 4 voies sur le canal Saint-Martin.
Vous avez voulu me le racheter.
Ouais, ça va, il est vintage. Il est vintage. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Cyril, vous qui avez le recul historique nécessaire, racontez-nous le plein emploi, d'où ça sort?
Connaissez-vous Arthur Cécile Pigou? Non, et c'est un tort, puisque c'est à cet économiste anglais qu'on doit l'apparition du terme plein emploi. Nous sommes en 1913 et Pigou écrit ceci, je le cite, « Le plein emploi existe toujours, ce terme étant interprété au sens large comme l'emploi de tous les gens désireux d'être salariés, moins ceux qui sont empêchés de l'être en raison d'une insuffisante mobilité et autres frictions semblables. » Fin de citation. Mais s'il est le premier à utiliser ce mot, ce n'est pas pour ça qu'Arthur Pigou va se faire un nom dans le bottin mondain des économistes, mais parce qu'il est le fondateur de l'économie du bien-être. Et parce qu'il est l'inventeur de la taxe Pigou. Et qu'est-ce que c'est la taxe Pigou? Pour vous la faire simple, c'est le principe du taxeur-pollueur. Je m'écarte du sujet, j'en reviens en plein emploi. Si Pigou a été le premier à utiliser ce terme, c'est à un autre qu'on doit sa popularité.
Mais vous avez fait monter le suspense.
Oui, je sais, c'est terrible. Oui.
Qui est donc, Cyril?
Un autre économiste anglais qui fut le collègue de Pigou à l'université de Cambridge. Il s'agit ni plus ni moins de l'économiste le plus influent du XXe siècle. Pas François Langlais, mais John Maynard Keynes. Et c'est dans les années 30 qu'il définit un peu plus clairement ce concept de Pigou. Pour Keynes, le plein emploi correspond à une situation où le chômage ne concerne que les personnes entre deux emplois et celles qui viennent d'entrer sur le marché du travail. Il ajoute que pour que la notion de plein emploi ait du sens, il faut qu'existe la possibilité d'un chômage involontaire. Ce plein emploi sera reconnu officiellement dans la période d'après-guerre, officiellement reconnu peut-être, mais est-ce que tout le monde s'est mis d'accord? Oh que non, et c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que le plein emploi? Comment y parvenir? Est-ce que c'est un objectif réaliste? Est-ce que c'est aussi devenu de la com politique? Quel pays a effectivement atteint le plein emploi? Et qu'est-ce que ça changerait qu'on y soit, nous, en France? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Christine Herel, on va commencer cette émission par quelque chose qui, je crois, vous tient à cœur, la définition du plein emploi. Parce que, ou plutôt sa non-définition, car je crois qu'à vos yeux, il n'existe pas de définition vraiment claire. Le concept peut être assez large.
Oui, et puis surtout, alors on peut effectivement prendre une première perspective qui est un petit peu celle que vous avez commencé à esquisser, c'est-à-dire si on se situe dans l'histoire de la pensée économique, il y a eu plein de définitions du plein emploi. Donc effectivement, celle des néoclassiques, donc Pigou, vous avez cité, qui est assez proche finalement sur le fond de celle de Keynes, dans la mesure où l'idée centrale, là, c'est on est au plein emploi si tous ceux qui veulent travailler au salaire qui est en vigueur à ce moment-là travaillent. D'accord. Donc du coup, en fait, le principe, c'est qu'on n'a pas, à ce niveau d'emploi, on n'a pas de chômage qui serait du chômage involontaire, sauf effectivement les temps de recherche d'emploi. Voilà, c'est ça qui est évoqué en fait avec ce concept. Et après, donc ça, c'est la première grande définition, on va dire. Après, les économistes en question, Keynes et les néoclassiques, ne sont pas du tout d'accord sur les causes du fait qu'on ne se retrouve pas au plein emploi. Donc ils n'ont pas du tout la même vision, on pourra y revenir, de ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Par contre, sur le concept, on est sur quelque chose qui est relativement proche. Après, effectivement, les économistes anglais, toujours c'était des anglais, ont davantage mis l'accent sur cette idée de le plein emploi, c'est quand il n'y a plus que le niveau de chômage incompressible qui correspond au temps de recherche d'emploi, etc. Voilà, il faut du temps pour soi-même chercher un emploi, pour les entreprises, pour mettre leurs offres d'emploi, etc. Voilà. Et donc, on a un autre économiste qui a beaucoup insisté là-dessus, qui est Beveridge. Et donc, Beveridge, lui, estimait du coup que le plein emploi, c'était quand on était à peu près à 3% de chômage, que le minimum en dessous duquel on ne pouvait pas descendre, c'était à peu près 3% de chômage. Voilà. Ensuite, on a eu effectivement toute la période de l'après-deuxième guerre mondiale où, pour la plupart des économistes, on était au plein emploi, effectivement. On était au plein emploi avec des taux de chômage autour de 5%, 4-5% dans la plupart des pays.
On appelait ça le plein emploi.
On disait qu'on était au plein emploi, effectivement. Alors attention, on était au plein emploi, mais avec quand même la majorité des femmes qui ne travaillaient pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas le même plein emploi que celui dont on pourrait parler aujourd'hui. Bah oui, le taux d'activité des femmes a doublé en France depuis les années 60. Donc on ne parle pas du tout du même monde. Voilà. Donc déjà, vous voyez, ça montre bien qu'il y a quand même des grandes différences et qu'on peut avoir... on a plein de définitions déjà chez les économistes du plein emploi.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
C'est un objectif qu'on nous présente presque comme naturel. Zoom aujourd'hui sur le plein emploi avec vous, Christine Herel, économiste, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers. On essaye de comprendre taux d'activité, d'emploi, de chômage. Il y a beaucoup, aujourd'hui, beaucoup d'indicateurs. On parle souvent dans cette émission de surinformation. On a l'impression que certains se complètent, ok, mais d'autres se contredisent presque parfois. Est-ce qu'il y a un indicateur qui est plus pertinent que les autres en matière de travail?
Non, malheureusement, pour faire un bilan, on est obligé de prendre l'ensemble. Ouais. Et quand on regarde effectivement la relation entre chômage, emploi et inactivité, il faut bien quand même regarder toutes les catégories pour comprendre ce qui se passe. Je vous prends un exemple. Si on a effectivement un taux de chômage faible. C'est pas forcément pour autant qu'on est dans une situation qui est une situation où tout est rose en matière d'emploi. On peut avoir beaucoup de gens qui sont en emploi mais qui sont dans des emplois qui ne leur conviennent pas, où ils voudraient travailler plus. Donc on parle de sous-emploi, des gens qui sont à temps partiel et qui disent qu'ils voudraient travailler davantage. Donc déjà là, voilà, on va avoir un bémol par rapport au faible taux de chômage. Et puis on peut aussi avoir des gens qui sont inactifs mais qui voudraient travailler en fait et qui peuvent pas travailler parce que ils ont des problèmes de garde d'enfants, des contraintes de transport, etc. Différentes contraintes qui font que finalement ils vont pas aller sur le marché du travail ou qui sont découragés parce que ça fait longtemps qu'ils cherchaient un emploi et qu'ils trouvent pas. Voilà. Donc du coup, faible taux de chômage, c'est pas si systématiquement quelque chose qui va être tout rose, quoi.
Et le plein emploi, lui, il est souvent considéré comme un objectif économique et social crucial par les pouvoirs politiques. C'est notamment le cas en France depuis la campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Vous pensez que c'est devenu une sorte de totem politique, le plein emploi, mais finalement, il faut pas le chercher coûte que coûte?
Bah, je pense que c'est un peu devenu un totem politique parce que ça revient régulièrement, en fait. On avait eu aussi François Hollande avec l'inversion de la courbe du chômage et puis il a jamais réussi, entre guillemets. En fait, ça s'est inversé, mais trop tard. Et donc, du coup, politiquement, il a pas réussi à en tirer les fruits. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où le taux de chômage a plutôt tendance à remonter un petit peu. Et malgré tout, le gouvernement s'acharne à parler de plein emploi. Alors, je pense que s'il le fait, c'est aussi parce que ça permet de justifier des réformes qui sont supposées, effectivement, permettre de conduire au plein emploi. Donc, du coup, il y a une utilisation politique du concept de plein emploi. C'est pas juste quelque chose qu'on mesure et qu'on observe.
C'est vrai qu'on manipule les foules en brandissant ce terme de plein emploi.
Alors, je dirais pas manipuler les foules, mais c'est quelque chose qui permet de justifier certains types de mesures de réforme du marché du travail en disant, voilà, on n'y arrive pas en France alors que d'autres pays y arrivent. Et pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce qu'on n'a pas le bon système d'assurance chômage ou les bonnes institutions du marché du travail. Donc, on va faire des réformes. Alors qu'il faut aussi se poser la question, effectivement, de qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi? Effectivement, de la qualité aussi des emplois qu'on crée. Or, vous avez des pays où vous êtes certes au plein emploi en termes de taux de chômage, mais où il y a beaucoup de sous-emploi, comme je l'évoquais tout à l'heure. Bon, par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne ou le cas de la Grande-Bretagne ou le cas des Pays-Bas, bah, il y a beaucoup de temps partiel, notamment des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, ne peut pas être considéré comme étant quelque chose qui est tout positif, quoi. Donc voilà. Donc il y a Je pense qu'il faut regarder tout un ensemble d'indicateurs, effectivement, et se méfier d'un usage trop simpliste, en fait, du terme de plein emploi.
Vous parliez des différentes définitions du plein emploi, mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi la définition? C'est quoi l'objectif du gouvernement quand il parle de plein emploi?
L'objectif, il affiche ce qui est dit régulièrement, c'est quelque chose qui serait autour de 5%, en fait, qui correspond à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour les économistes, l'idée, c'est que le chômage frictionnel, celui qui correspond juste au délai pour retrouver un emploi, etc., ce serait entre 3 et 4%, quoi. Ça dépend après de la taille des pays, c'est un peu plus quand on est un grand pays. La France, c'est un grand pays. Donc du coup, on peut dire 4-5% de chômage, ça serait le niveau du plein emploi en France. Donc je pense que le gouvernement, ce qu'il a en tête, c'est cette ordre de grandeur-là. C'est tendre vers les 5%, 7,5%. Du coup, on a encore une grosse marge.
Vous pensez que c'est atteignable, le plein emploi en France? Je vous demande pas si c'est souhaitable pour le coup, puisqu'on en discute, mais est-ce que c'est atteignable, c'est faisable?
Oui, je pense que c'est atteignable, mais pas forcément tout de suite, pas forcément dans les conditions dans lesquelles on est actuellement, parce qu'on est quand même dans une situation à l'échelon international qui est une situation qui n'est pas favorable. Il y a beaucoup de crises, de tensions, etc. Donc je pense que oui, c'est atteignable, mais pas nécessairement à un horizon qui est un horizon de très court terme. Et puis il y a les aspects démographiques qui jouent aussi et qui jouent en faveur du plein emploi, puisqu'il y a plutôt une baisse de la population active. Avant, en France, on avait une tendance à l'augmentation de la population active. Là, ça va aller plutôt dans l'autre sens. Il y a quand même moins de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et ça va faire baisser le chômage. Mais c'est des choses qui demandent du temps. C'est pas des phénomènes qui se produisent du jour au lendemain.
Et si le plein emploi, c'était comme l'amour? Si on avait tort de le chercher à tout prix? On continue de zoomer sur la notion de plein emploi avec vous, Christine Hérel. Alors, soyons un peu factuels, ne serait-ce que pour pouvoir comparer. Quand est-ce que dans l'histoire, la France s'est retrouvée dans une situation de plein emploi, si ça a vraiment eu lieu?
Oui, pendant les 30 Glorieuses, on était au plein emploi dans les années 50-60. C'est jusqu'au début des années 70, en fait, c'est avec les chocs pétroliers que le chômage a commencé à monter et que du coup, on avait effectivement, on n'a plus parlé de plein emploi. Mais comme je le disais au début, quand même, il faut être un peu critique quand même avec cette notion de plein emploi des années 50-60, puisque c'était le plein emploi d'une partie de la population. C'est le plein emploi des hommes. On avait les femmes qui restaient à la maison, gardaient les enfants, et donc des taux d'emploi des femmes qui étaient faibles, qui étaient autour de 40% entre 30 et 50 ans. On a le double. Donc, des taux d'activité, qui sont le double.
Je vous écoute, ça paraît tellement simple, cette idée que les femmes ne travaillaient pas et donc que on atteignait le plein emploi plus facilement. On n'en parle pas beaucoup dans les débats politiques. Tout le monde dit on va atteindre le plein emploi, les 30 Glorieuses, c'était merveilleux. C'était merveilleux, mais pas les femmes. Donc, en fait, c'est peut-être pas si simple d'arriver au plein emploi. On n'y serait pas arrivé peut-être même à l'époque, si les femmes avaient travaillé.
Oui, on peut se poser la question. Après, c'est vrai que l'environnement économique n'était pas du tout le même non plus, donc c'est toujours difficile de refaire l'histoire. Même avec les femmes, ça aurait peut-être été plus favorable sûrement sans doute que maintenant. Mais malgré tout, effectivement, c'est une question quand même fondamentale de se poser la question de savoir quel plein emploi on veut. Et donc, effectivement, quel type, à la fois du point de vue de la qualité, on en a déjà parlé, et puis est-ce qu'on veut que les gens travaillent de 15 à 75 ans, ou est-ce qu'on veut que ce soit des gens qui ont fait des études et qui commencent plutôt vers 25 ans, et avec des départs en retraite qui ne soient pas trop tardifs non plus. Enfin voilà, tout ça, c'est une question. Il y a un choix social derrière la notion de plein emploi. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est naturel.
Mais est-ce que parler, comme ça, brandir l'objectif du plein emploi, ce n'est pas oublier les vraies problématiques liées au travail, en fait. D'autres problématiques qui sont peut-être plus importantes que courir derrière cet objectif-là, qui est flou.
En tout cas, ce n'est pas ce qui est fondamental pour la vie des gens au travail. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe en France, et c'est ce qu'on a fait dans l'ouvrage que vous avez cité, là, que sait-on du travail, quand on regarde vraiment ce qui se passe au travail, ce qu'on voit, c'est que le problème en France, c'est d'abord une qualité de l'emploi qui, effectivement, n'est pas très bonne, une qualité de l'emploi et du travail qui n'est pas très bonne, avec des conditions de travail qui sont souvent difficiles pour une grande partie des salariés, avec un soutien social au travail qui peut être assez faible aussi, c'est-à-dire les gens se sentent pas assez dans un environnement qui est pas assez favorable, où ils ont pas assez de soutien de leurs collègues ou de leur hiérarchie, voilà, des problèmes d'organisation du travail, beaucoup de pression en fait. Les Français se plaignent beaucoup de la pression qu'ils subissent au travail.
C'est propre à la France ou dans d'autres pays européens?
C'est particulièrement marqué en France. En France, on est là-dessus, on se situe vraiment pas bien par rapport aux autres pays européens. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, il y a des vrais problèmes au travail qui sont pas du tout pris en compte quand on parle de cette notion de plein emploi, surtout en plus sans prendre en compte ces aspects plus qualitatifs dont on a pu parler.
Dans un article du Monde publié en novembre 2023, vous expliquez que pour réussir les politiques de l'emploi d'ici 2030, il faut changer de paradigme en mettant l'accent sur la sécurité et la qualité de l'emploi dont vous parlez, tout en soutenant la transition écologique et la cohésion sociale. Quand vous entendez que le gouvernement veut faciliter le licenciement des fonctionnaires, par exemple, vous vous dites qu'ils n'ont pas lu ce que vous avez écrit dans le Monde.
Non, je pense qu'ils n'ont pas lu ce que j'ai écrit dans le Monde. Après, il y a des débats sur toutes ces questions-là, mais effectivement, pour moi, la question de la sécurité des trajectoires sur le marché du travail, elle est très importante. Donc, le modèle de la fonction publique, c'est quelque chose qui permet quand même, effectivement, d'avoir une sécurité des parcours professionnels. Je ne dis pas qu'il faut le généraliser, mais effectivement, le vouloir absolument le remettre en cause, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait critiquer dans cette perspective-là.
Vous écoutez France Inter et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Dans quelques instants, justement, on se demandait à quoi ressemblait le plein emploi. Eh ben, à la Suisse. 3,9% de chômage seulement, c'est ce qui s'appelle le plein emploi. On le félicitera, même s'il n'a pas grand-chose à voir avec cette belle performance économique. Yann Marguet, le plus lausannois des humoristes, va nous rejoindre. Mais d'abord, Manon, vous me disiez en antenne, je vais lui montrer à la KU ce que c'est que le journalisme. Le moment est venu.
Ça va pas.
On avait dit ça tout à l'heure. Lors de votre veille sanitaire, tout ce qui agite les réseaux sociaux décryptés par vous. Manon, aujourd'hui, un étrange mouvement a attiré votre attention sur TikTok.
Ils ont la trentaine, ils voyagent, ils sont célibataires et ils cherchent des meufs. Je vous présente les Passport Bros, en français, les frères avec des passeports. Et ces Passport Bros ne voyagent pas n'importe où pour pécho. Non, eux, ils vont en Amérique latine, en Europe de l'Est ou encore en Asie. Leur objectif, partir à la rencontre de femmes qu'ils estiment moins féministes que dans leur pays natal, car ils en ont marre de cette mentalité. Ils estiment que les femmes occidentales deviennent trop revendicatrices, qu'elles ne remplissent plus leur rôle dans le foyer, voire qu'elles sont méprisantes. Du coup, direction des pays où les femmes vont les traiter comme ils le méritent. Autrement dire que des hommes, des vrais. Car vous l'avez compris, ces Passport Bros sont de bons gros masculinistes, comme il en existe malheureusement beaucoup. Et comme la majorité des mascus, ils affichent fièrement leurs idées sexistes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les Passport Bros sont très présents sur TikTok.
The three stages of being a passport bro. You're gonna have so many life-changing experiences during this step, trust me.
Là, par exemple, vous entendez le maître à penser de ces Passport Bros, l'américain Digital Bromad, 500 000 abonnés sur TikTok, qui explique comment devenir un bon Passport Bros. Il a fait son business en proposant des tutos et des conseils à destination de son public sur comment trouver des meufs à l'étranger. Il montre ses matchs sur Tinder et dans quel bar il sort, et sans vergogne, il se filme en date avec une Philippine, en boîte avec une Thaïlandaise, et il va même en Corée pour espérer, je cite, trouver une épouse traditionnelle. C'est vraiment rempli de masculinité, c'est toxique. Et dans une vidéo vue plus de 300 000 fois, il explique pourquoi il fait ça. Il dit que c'est devenu impossible pour lui de dater des femmes aux États-Unis car on leur apprend à détester les hommes. Alors que dans les autres pays, elles sont bien éduquées au patriarcat et qu'elles sont là pour aider et sécuriser leurs partenaires masculins. Et puis il conclut en disant que si les femmes américaines sont célibataires, si les hommes américains célibataires, c'est tout simplement à cause des femmes.
Tout ça me donne pas trop envie de partir en vacances avec lui, Manon.
Et Mandon, vous vous détez bien. En fait, ils font partie de cette mouvance des incels, ces célibataires involontaires, une sorte de sous-culture du masculinisme. On va en faire une émission en mai, mais je vous résume leur mode de pensée. Ce sont des jeunes hommes persuadés que s'ils sont seuls, c'est à cause des femmes. Ils cultivent donc une haine de la gente féminine qu'ils alimentent en plus avec des idées extrémistes sur les réseaux. Ils sont très nombreux sur les forums Reddit et 4chan, par exemple. Sauf que petit à petit, ils s'immiscent aussi sur les plateformes les plus mainstream, la preuve donc avec ces fameux passport bros sur TikTok. Et c'est très dangereux, car en plus de faire prospérer leurs idéologies misogynes auprès de millions de personnes, ils participent aussi à un racisme totalement décomplexé.
C'est-à-dire, Manon ?
Eh bien, on parle quand même d'hommes occidentaux qui partent dans des pays en développement où ils estiment que les femmes leur seront plus soumises, du bon vieux colonialisme. Et pour se faire cette opinion, ils s'appuient sur des stéréotypes racistes comme le fait que les femmes asiatiques seraient plus dociles et souriantes, ou que les femmes colombiennes seraient pauvres et que du coup elles chercheraient un mari avec de l'argent. Et puis il y a aussi un côté hyper sexualisant qui est dérangeant. Sur TikTok, la majorité de ces passport bros présentent leurs dates et leurs rencontres comme des femmes trophées. Ils font des gros plans sur leur décolleté ou sur leurs fesses, en profitant du fait qu'elles ne parlent pas la même langue qu'eux. Du coup, elles ne comprennent pas forcément ce que dit le TikToker, elles rigolent à côté. C'est humiliant et dégradant pour elles. Vraiment, rien ne va dans cette mouvance des passport bros. En fait, c'est une sorte de déviance du tourisme sexuel, mais cette fois-ci mis en scène dans des vidéos sur les réseaux. Alors eux, ils précisent bien ne pas payer pour coucher avec des femmes et que tout passe par leur charme légendaire, évidemment. Mais bon, ça n'enlève rien à la toxicité et au sexisme de leur démarche. Le problème, c'est qu'ils en sont fiers et qu'ils sont regardés par des centaines de milliers de personnes. Ils ont l'impression d'être valorisés dans leur petite masculinité d'homme viril et de montrer que la domination masculine n'est pas perdue. C'est leur concours de bip aux millions de vues et franchement, il faudrait que ça cesse.
Merci Manon Mariani. Dans un instant, Yann Marguet viendra nous donner la définition définitive du plein emploi. Le temps d'écouter H, Jeune Crack et Meiro, Fast Learner sur Inter.
Rapide, c'est pas mal. C'est pas mal. Si c'est pas de ma héros, c'est pas la peine. Sors les fiches de paix au fiche, moi la paix. J'ai directement le chiffre dans l'appel. Mon pleura se rapproche de la frontière. Et mon phrasier se rapproche de la fontaine. Gâteau plein d'or comme si j'étais un roi mage. Que mon plumage se rapporte à mon ramage. MIR, je sais pas, t'as cru quoi. Pour le faire, il suffit pas d'une fois. Des fois, c'est noir, on dirait le ciel me tombe dessus. Le sort s'abat sur moi. J'ai mis mon cœur dans la machine. J'ai beau attendre, mais il ressort sale. J'ai grave grandi en vrai depuis, mais ça bouge pas comme une épine dorsale.
Ceux qui savent, savent, tu sais déjà si t'es un fast learner. Repas d'affaires dans un restaurant, passe le sel et puis passe le beurre. Repas de famille débat sur les banques, j'suis le grand frère, j'assure l'exemple, j'vide le sancerre. J'kiffe les films de gangsters, mais j'bande pas sur les gangs. Y'a que les idiots qui doutent pas, les bars j'légis tout haut, j'y réfléchis tout bas. J'reçois un coup de fil, j'ai déjà un coup de barre. J'réponds, j'dis j'écoute, alors que j'écoute pas. On fait comme ça, vas-y hein. Les humains, j'les comprends pas, j'suis pas bilingue. J'te parle de ce que j'connais, si j'étais mécano, j'te parlerais de 4 anneaux et de 4 cylindres.
Ça m'est pas tombé dessus, ça m'est pas tombé dessus, j'ai pas trafiqué ma place. La base est l'acide, l'acide est la base. Fais-le goûter l'autre côté si t'es là-bas. En ce moment, mon ex, elle me manque même en cabine. Des amis, y'en a moins qu'avant. Avant, on traînait dans tous les coins de la ville. La vérité blesse, les soins, ça pique. Que les diablesses restent loin de ma bille. Il faut la sagesse comme un papy. J'pique comme une abeille, vole comme un papillon.
J'ai le rap et le foot comme quand j'étais minot. J'regarde les nuages, on dirait des tifos. Sur le terrain,
comme si j'étais Lino.
Focalise avant de monter sur scène. Corde à sauter avant de mettre les gants. J'dois me faire enlever les dents de sagesse. J'marque des pauses, comme ça je laisse chanter les anges. J'ai un gros cerveau, je me sens très à l'étroit. Je parle pas trop, je préfère faire parler de moi.
On danse pas mais on fait les moves. On danse pas mais on fait les moves. Tous ceux qui dorment sur moi, je prends leurs coussins, je les étouffe. Ils nous prennent pour qui c'est des ouf. On danse pas mais on fait les moves. Move.
Zoom zoom zen sur France Inter.
Si le plein emploi est dur à atteindre, ces salles à lui en revanche sont presque pleines, même si pas assez, pour que je n'ai pas à rappeler qu'il reste encore 136 places à ce jour pour le voir au Lucernaire à Paris jusqu'au 2 juin. Dépêchez-vous et accueillez sans plus attendre Yann Marguet.
Tout commença lorsque les grands sujets furent forgés. Trois furent donnés à la droite. Le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. À la gauche, on en donna quatre. La santé, l'environnement, le social et l'éducation. À l'extrême droite, qui, par-dessus tout, désirait le pouvoir, on ne donna malheureusement que l'islamisme radical. Quant à l'extrême gauche, pourtant animée par les intentions les plus nobles, il ne resta que celui de s'excuser pour Jean-Luc Mélenchon. Mais dans les flammes de la montagne du blabla fut forgé dans le plus grand secret un sujet unique. Un sujet pour les gouverner tous et dans le bullshit les lier. Le plein emploi. Oh, le plein emploi, l'apex du succès politique potentiel, la médaille d'or du 110 mètres promesse, l'Oscar du meilleur programme de campagne, l'assurance d'une place au Valhalla politique pour celui ou celle qui parviendra à l'instaurer, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas malgré toutes les combines et manip et ruses des allez, 300 derniers gouvernements pour enrayer le chômage. Il revient chaque mois avec ses chiffres. J'ai les chiffres. C'est la Salomé Saké des problèmes socio-économiques parce qu'on le sait, Salomé, elle a les chiffres. Alors déjà, c'est quoi le plein emploi hein? Parce qu'il y a des versions, il y a la sauce macroniste basée sur une méritocratie protestante portée avec un éclat qu'on n'avait pas vu depuis longtemps chez un dirigeant.
À part peut-être Madame Thatcher.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a le modèle américain aussi, par exemple, où le chômage est maintenant contenu entre 3 et 4%, mais où à la question « Tu fais quoi dans la vie ?», on peut répondre. Alors je dis « Hello guys, what's up ?» toute la journée chez Uniqlo, je vis mon rêve, sans oublier le système nord-coréen, où si tu bosses pas, on zigouille, ce qui favorise quand même vachement le taux d'activité. Mais revenons à nos Macron, puisqu'il habite à 32 minutes de la radio en transport public, ça nous concerne un peu plus. Macron, qui ne serait évidemment pas président de la République s'il n'avait pas également promis le plein emploi, le précieux, et qui a donc décidé de son côté, pour résoudre le problème des gens qui n'ont pas de travail, de s'attaquer aux gens qui n'ont pas de travail. La logique est implacable parce qu'un fort taux de suicide vaut toujours mieux qu'un fort taux de chômage. Coupons donc dans les droits des plus précaires. Pôle emploi s'appelle désormais France Travail. Il manque qu'une virgule entre les deux mots et un point d'exclamation à la fin pour recréer le tatouage que Gabriel Attal a au bas des reins. France Travail, putain ! T'étais pilote de ligne, bah tu conduisais un truc, fais chauffeur Uber. T'es dans un secteur en tension, infirmière, instit, auxiliaire de vie ou toute autre personne avec qui François Ruffin discutait pas plus tard que l'autre jour dans sa circonscription à Amiens. Et bah accroche-toi parce que si tu passes au RSA, on va te contrôler deux fois plus. Tu t'es fait virer à 55 ans, et ben sache que Bruno Le Maire veut diminuer ton temps d'allocation. Tu croyais quoi, que t'allais pouvoir débloquer du temps pour écrire un roman érotique? Non! Objectif plein emploi, coûte que coûte, dussiez-vous en crever. On dirait qu'ils veulent, c'est construire un château de cartes qui tient pas bien, prendre la photo pour montrer qu'ils l'ont fait et se barrer avant qu'il s'effondre. Dans tout ce que j'ai lu en préparant ce sujet, Mathieu, pas une mention du revenu universel de base ou de la taxe Tobin, pas une considération sur les conséquences de l'IA, de la robotique, du dérèglement climatique, des pandémies et des guerres sur le marché du travail, sur le concept même de travail, non. Taux de chômage, PIB, croissance, que des vieilles recettes, on dirait la cuisine des mousquetaires, sauf qu'au lieu de sucer le cul d'un ortolan, on suce toujours plus le cul des riches et des entreprises aux dépens des plus précaires, et on se cache même plus avec une serviette pour le faire. Voilà, c'était ma vision du plein emploi en France. J'espère que cette chronique vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous très très vite pour un tuto, cette fois, où on apprendra à interpréter les chiffres du chômage, comme les feuilles du thé ou le marc de café au fond des tasses. Vous verrez, c'est très très simple. en attendant, je vous dis à bientôt mes chéris, et surtout, n'oubliez pas de travailler.
Merci beaucoup Yann Marguet, le Che Guevara suisse. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Christine Herel d'avoir décrypté pour nous ce piégeux concept de plein emploi. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail.
Merci. Exact. Oui, c'est ça.
Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce meilleur de Zoom Zoom Zen. On se retrouve lundi pour parler asexualité. Qu'est-ce que c'est de ne ressentir aucun désir sexuel, ou presque? On vous explique tout lundi à 16h sur Inter.